La matinée avec une thématique dédiée aux allo-immunisations plaquettaires, et pas que, parce que vous verrez qu'on vous a réservé une forme de surprise au travers de l'invitation que nous avons lancée à Elisabeth Tournier-Lasserre pour ouvrir les champs un petit peu des dossiers, notamment d'hémorragie cérébrale en période périnatale, qui nous font discuter les allo-immunisations plaquettaires et qui représentent un champ d'exploration pour nous à des fins d'un meilleur diagnostic et d'un meilleur conseil génétique pour les familles en fin de session. Je vous laisse.
Bonjour à tous. J'ai le plaisir de demander le docteur Rachel, d'inviter le docteur Rachel Peterman, biologiste au CNRHP et responsable du secteur immunologie plaquettaire, pour discuter des aspects récents sur l'allo-immunisation plaquettaire.
Donc bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, pour ceux qui connaissent mal la plaquette, je vous ai représenté la surface du membrane plaquettaire où vous pouvez voir les différents complexes glycoprotéiques qui sont à sa surface, donc notamment GP1A, 2A, 2B3A, 1B9 et CD109, et qui portent eux-mêmes les antigènes plaquettaires humains, appelés HPA. Et vous voyez que principalement, ces HPA sont situés sur GP2B3A. Actuellement, la nomenclature, nous avons 35 systèmes HPA qui sont décrits donc bien différents de ce que vous connaissez pour le globule rouge. Donc, chez les Caucasiens, HPA1 est impliqué dans plus de 70% des FNAIT. Donc, je prends l'abréviation anglaise parce qu'elle est quand même plus confortable, donc qui correspond aux thrombopénies allo-immunes fœtales et néonatales, et HPA1, 3, 5 et 15 dans plus de 90%. Alors, toute la problématique, et je reviendrai sur la physiopathe bien plus tard dans cette présentation, et d'avoir une mère qui est négative pour un système, pour un antigène, et qui porte un fœtus positif pour un autre antigène. Et l'enjeu majeur est l'hémorragie intracrânienne, et qui cause, comme vous pouvez le voir sur cette photo, des troubles et des séquelles neurologiques qui peuvent être très importantes. Et je vous invite à aller regarder la publication donc de Palmer, dans Transfusion Aphéresis and Science, en fait en 2020, qui reprend toutes les missions de Nate Babies Organization, puisque c'est une organisation qui se bat pour lutter contre les FNAIT et puis pour aider donc les familles de patients, et qui soutient également la recherche. Donc, en fait, mon topo sera basé sur une revue de la littérature relativement récente, et puis d'autres choses qui m'ont interpellée dans mes lectures et que j'ai remis au goût du jour, parce que des choses que j'avais moi-même oubliées. Voilà, qu'est-ce qui est nouveau? Alors, CD36, voilà, est-ce que cette glycoprotéine a un intérêt ou pas? En fait, CD36, pour ceux qui ne connaissent pas, n'est pas traditionnellement représenté sur la surface des globules rouges, comme vous, des plaquettes, pardon, comme vous avez pu le voir. En fait, CD36 est à la surface des plaquettes, des monocytes, des macrophages, mais également des cellules endothéliales, des adipocytes, des cellules cardiaques. Et elle a différents rôles, et notamment pour les plaquettes, elle a comme rôle d'être un récepteur pour le collagène. Je n'entrerai pas aussi dans des rôles que, si vous allez taper dans la littérature, pour les acides gras longue chaîne, pour les LDL oxydés, etc. Mais il y a quelque chose de très particulier pour CD36, c'est un phénomène, contrairement aux autres HPA, c'est que des sujets peuvent présenter une absence d'expression de CD36, et à ce moment-là, on est en présence d'un phénotype CD36 négatif. Alors la fréquence, comme vous le voyez chez les Caucasiens, de 0,3%, chez les Africains entre 2,5 et 7%, et chez les Asiatiques entre 3 et 11%. Là, je m'appuie sur la publication faite par Émilie Le Toriellec, et bien sûr sur l'équipe de l'OR, qui sont ici aujourd'hui, et je la remercie pour ce beau papier. deux types de phénotypes CD36 négatifs. Donc le type 1 qui correspond à des plaquettes et des monocytes où CD36 est absent, et un type 2A où les plaquettes sont CD36 négatifs seules, et 2B où les plaquettes et les cellules érythroïdes sont CD36 négatifs. Alors, quelques années auparavant, on avait publié sous la l'égide de l'International Society of Thrombosis and Hemostasis qu'il fallait absolument explorer dans le cadre de DEFNATE de rechercher les anticorps anti-GP4, puisque CD36 s'appelle aussi GP4, en fonction de la situation géographique du laboratoire. Si vous êtes en Asie, c'est un problème important, comme vous venez le voir, vu l'incidence. Et le type de population qui est étudié par le laboratoire, et notamment par les laboratoires qui ont un brassage de population important, comme on peut l'avoir en Île-de-France, ou à Marseille, ou Lyon. L'intérêt du papier d'Émilie, du phénotypage CD36 et de la recherche d'anticorps peut se faire également chez les drépanocytaires, parce que ces patients-là peuvent développer une immunisation anti-GP4 qui peut entraîner des complications comme un état réfractaire post-transfusionnel, bien sûr plaquettaire, aussi un purpura post-transfusionnel like qui a été décrit il y a des années en arrière par Philippe Berling et Bertrand Godot, et des thrombopénies alloimmunes. Alors, une question qui est toujours discutée avec nos amis cliniciens, bien entendu, est-ce qu'il y a une différence clinique entre l'allomisation anti-1A et anti-5B? Est-ce que les caractéristiques cliniques sont différentes? Et là, j'ai le plaisir d'avoir Tils qui est ici, puisque c'est un papier de BJH qu'il a publié en 2021, et ça me fait plaisir qu'il soit là ce jour. On va pouvoir bien discuter tout à l'heure à la pause déjeuner. Donc, c'est une étude nationale rétrospective d'une cohorte de 1860 cas de FNAIT suspectés entre 2002 et 2020. Et les cas inclus étaient des thrombopénies néonatales avec NUM plaquettaire inférieur à 150 gigas et ou un saignement fœtal ou néonatal, une incompatibilité mère-enfant avérée et la présence d'un allo-anticorps anti-1A ou anti-5B. Alors, la prévalence des anticorps chez la femme enceinte pour anti-1A, c'est 0,2% et anti-5B, 1,8%. Pour la prévalence des anticorps dans le cadre des FNAIT, pour 1A, entre 75 et 78% et pour 1B, entre 9 et 15%. Voilà le flowchart de l'étude. Comme vous le voyez, donc on part de 1860 cas suspectés pour arriver à 129 cas avérés avec un anti-1A et 40 cas avec un anti-5B. Ça va permettre d'étudier donc la prévalence des saignements sévères dans les cas de FNAIT renouvellement détectés. Alors les caractéristiques cliniques, quelles sont-elles? Il n'y a pas de différence dans la distribution, dans le sexe, pour le sexe masculin notamment, l'âge et le point de naissance des enfants. Par contre, anti-HPA1A souvent est souvent beaucoup plus détecté lors de la première grossesse. Par contre, anti-5B est plus souvent détecté en anténatale et associé à d'autres risques de thrombopénie néonatale, comme vous pouvez le voir, la prématurité, le retard de croissance intra-utérin, le sepsis néonatal, l'asphyxie péronatale, l'anomalie congénitale sévère, le PTI maternel associé, enfin c'est du grand classique. Les évolutions cliniques. Eh bien, comme vous voyez, les saignements apparaissent avec l'anti-1A dans 76% des cas, l'anti-5B dans 31% des cas, mais il n'y a pas vraiment de différence concernant la sévérité des saignements. L'anume est plus basse en cas de saignement, mais pas de relation millénaire entre la sévérité de la thrombopénie et le saignement, ce qui est quand même super important. Comme vous le voyez ici sur ce graphe, vous pouvez voir que le nadir, même dans des cas asymptomatiques, le nadir en anti-1A, donc c'est les petits points verts, je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus, oui là, en fait ici vous voyez que le nadir est quand même relativement bas alors qu'on est dans des cas asymptomatiques. Alors la thrombopénie sévère inférieure à 25 gigas, elle est significativement plus basse en présence d'un A. Et la nature des saignements est dite différente, puisque seulement avec anti-1A, vous avez des organes qui sont touchés. Et là, dans la publication de Tils, c'est deux cas avec une hémorragie intrapulmonaire importante qui ont nécessité vraiment une prise en charge lourde de l'enfant et une hémorragie gastro-intestinale. Par contre, tout ce qui est hémorragie intracrânienne, vous voyez pas de différence entre 1A et 5B. Les cas de FNAIT détectés en anténatal, eh bien pour un A, vous avez les saignements anténatales qui sont détectés avec majoritairement des hémorragies intracrâniennes. Et par contre, les issues sont souvent très défavorables avec une mort fœtale in utero ou des IMG qui sont réalisées, une seule naissance qui est arrivée à terme après traitement par IVIG. Et par contre, pour 5B, la présentation est un peu différente. Vous avez aussi des hémorragies intracrâniennes, mais surtout des présentations de ventriculomégalie. Et puis la naissance, après donc ces grossesses ont toutes été menées à terme, et après mise sous traitement par IVIG, eh bien, on a une numération plaquettaire de l'enfant entre 124 et 364 gigas. Alors une autre question, et je pense que Laure Croisil qui est dans la salle va apprécier, c'est la publication dans le BJH 2020, quel est vraiment le rôle des anticorps anti-HLA de classe 1? Et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur au niveau des spécialistes en immunoplaquettes depuis de nombreuses années. Alors l'hypothèse de travail dans ce papier, est-ce qu'il y a une association entre les anticorps anti-HLA de classe 1 maternelle dirigés contre les antigènes plaquettaires avec bien sûr la FNAIT? Alors c'est une étude rétrospective qui a été faite en Allemagne sur 817 familles, c'est des trios, donc père-mère et enfant, avec un cas de suspicion de FNAIT entre janvier 2000 et avril 2016. Alors vous voyez ici les caractéristiques, bien sûr, des enfants thrombopéniques, juste pour attirer votre attention sur la partie, sur les pourcentages, c'est qu'en fait, entre les contrôles et les cas de FNAIT, pas de différence quand il y a présence d'anticorps. Donc, il n'y a pas d'association de l'allo-immunisation HLA et la réponse d'immunisation maternelle anti-1A. Et si on regarde de plus près la numération des nouveau-nés, comme vous le voyez ici, entre les contrôles et lorsque il y a présence d'anticorps HLA, eh bien, qu'il y ait présence ou absence, eh bien, ce n'est pas associé à l'ANUM chez les nouveau-nés thrombopéniques. Et si on regarde en association avec un anticorps anti-HPR1A, par contre, là, l'ANUM est significativement plus basse chez les nouveau-nés thrombopéniques. Lorsqu'on prend ici, sur votre gauche, la numération plaquettaire, la présence-absence d'anticorps et la présence-absence d'hémorragie intracrânienne, eh bien aussi, vous n'avez pas d'association dans ces trois critères. Dans ce papier, il y a une méta-analyse qui est intéressante également, qui concerne l'association de la présence d'anticorps anti-HLA et d'une thrombopénie néonatale dans les grossesses dites normales, et il n'y a pas d'association mise en évidence. Alors, je m'arrête juste sur un papier de Nature Communications de l'équipe de Nii au Canada, donc mondialement connue, d'ailleurs qui était venu au laboratoire pour les anciens de l'INTS. Donc pour vous refaire un point de la situation, parce que l'alloïmisation c'est pas aussi simple que ça, bien sûr dans les FNAIT participe la thrombopénie, ça on le sait tous, on en est sûr, mais aussi il y a la réponse maternelle immune avec le type d'anticorps potentiel, les anticorps étant par exemple les anticorps décrits par Santos Santoso il y a quelques années en arrière, donc alpha V beta 3, l'HLA classe 2 maternelle avec HLA DRB3 étoile 0101, l'isotype IgG puisque tous les isotypes ne sont pas en cause, la concentration en anticorps chez la maman, les modulateurs intrafétaux, puisqu'il y a une réponse inflammatoire, il y a le sexe de l'enfant, puisqu'on a toujours dit que les garçons étaient plus atteints, potentiellement la densité des antigènes HP1A sur les plaquettes fœtales, la thrombopéièse fœtale également qui est en jeu, et l'interface fœto-maternelle avec une augmentation du transfert des allo-anticorps maternels, ou bien une altération de l'interface à ce moment-là. Alors la problématique, c'est que dans cette FNAIT, les mécanismes par exemple de mort fœtale in utero et de retard de croissance ne sont pas connus. Juste Altos et collaborateurs en 2005 et 2019 avaient montré dans un papier qu'il y avait une vilite chronique comme étiologie potentielle du RCU sévère, précoce, uniquement dans les cas de FNAIT qui étaient non traités par IVIG. Alors ici dans ce papier, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait l'hypothèse que les réponses immunitaires maternelles aux antigènes fœtaux peuvent déclencher un RCU et une perte fœtale, et les IgG anti-intégrine bêta 3 maternelles peuvent former des complexes immuns sur les trophoblastes pour créer des sites de liaison pour les récepteurs FC gamma des cellules NK. Et ces complexes déclencheraient alors une cytotoxicité à médiation cellulaire par les cellules NK, la mort du trophoblaste et la perte fœtale. Pour cela, ils ont utilisé un modèle de fenêtre murin qu'on connaît bien et des lignées cellulaires de trophoblastes humains. Alors voici les résultats. Vous pouvez voir ici que, chez les mamans les mamans souris qui sont immunisées, eh bien, vous voyez que les fœtus sont de petits pois, beaucoup plus petits que la normale. Si l'on regarde après la perfusion du placentin et le rythme cardiaque des fœtus, eh bien, vous voyez ici qu'en fait le placenta est hypoperfusé et qu'en fait ces fœtus présentent une bradycardie significativement ici chez les mamans souris immunisées. Et puis si on s'attarde sur la vascularisation du placenta, eh bien elle est anormale et c'est significativement différent, comme vous pouvez le voir. Donc je vous invite à aller regarder ce papier qui est quand même très difficile à lire, mais qui est plein de choses intéressantes. Donc en conclusion, les réponses immunes maternelles aux antigènes fœtaux plaquettaires entraînent des fausses couches associées des pathologies vasculaires et immunes du placenta. Et la pathogénèse est basée sur les interactions entre le FC gamma R3A et des cellules NK utérines et les complexes immuns anti-intégrine bêta-3 sur les trophoblastes invasifs qui initient en fait le mécanisme d'ADCC. Et le recrutement des NK utérins et leur suivi au-delà de la moitié, puisque normalement ils disparaissent, entraîne en fait une augmentation d'expression de NKP46 et du CD107, le relargage de perforine et l'apoptose du trophoblasme. Alors, dans ce papier, bien sûr, peut-être que Macha va en parler tout à l'heure, il y a bien sûr une discussion sur de développer des monoclonaux anti-FC gamma R3 et anti-NKP46. Alors, un papier qui est de 2016, mais qui m'a interpellée, relation potentielle entre auto-immunité et alloimmunisation. Donc ça a été fait sur une rétrospective de 51 patientes, donc l'effectif est petit, mais très intéressant, de mamans diagnostiquées allo-immunisées avec un anti-HP1A en 2013 et revues 2 ans après. Voilà, 49 patientes donc, ont été suivies, et vous voyez que 51% de ces patientes ont développé une pathologie auto-immune, avec une incidence qui est nettement plus élevée pour la polyarthrite rhumatoïde, comme vous le voyez, hein, 35% alors que dans la population générale, on est à 8,7 pour 100 000, et pour le lupus érythémateux disséminé, et on voit aussi apparaître des syndromes de Gouge-Roggen et du diabète de type 2. Alors, l'hypothèse dans ce papier qui mériterait sur l'avenir d'avoir des larges études, parce que c'est quand même très intéressant, c'est l'absence d'encodage, puisque si les patientes ont fait un anticorps anti-1A, ça veut dire qu'elles sont un bébé, HP1 un bébé. Donc l'absence d'encodage avec la présence d'anti-1A augmente la susceptibilité de développer une pathologie auto-immune. Et je vous rappelle tout le rôle de l'haplotype HLA DRB3 étoile 0101 dans l'allumisation anti-HP1A et aussi HLA B8 DR3 dans le développement des pathologies auto-immunes. C'est important, et pour mémoire, le risque d'alloimmunisation anti-1A après l'accouchement d'un enfant positif est de 12,7% chez les patientes qui portent l'allèle positif et de 0,5% si c'est absent. C'est publié par Jens, je ne prononcerai pas son nom de famille, j'ai du mal, en 2020. C'est un super papier également à relire sur la place de HLA DRB3 étoile 0101. Alors, une étude hollandaise par Diane Winkelhorst dans BGH, HPR Screening Pregnancy, très intéressante, c'est pour ça que je vous la présente ce jour, c'est The HIP Study. C'est une étude nationale prospective observationnelle sur 2 ans et demi aux Pays-Bas pour évaluer l'incidence, l'histoire naturelle des FNAIT avec des allo-anticorps anti-1A et d'identifier les grossesses à risque de développer des complications hémorragiques et potentiellement une étude complémentaire issue des grossesses compliquées par un allo-anticorps anti-5B. Alors en fait, l'étude s'est basée sur le fait que les patientes RHD et RH-C négatives bénéficient d'un diagnostic prénatal non invasif. Et ces mamans donc sont sont informés de cette étude et de pouvoir rentrer dans le LEAP Study avec une phase 1 où, bien sûr, on va les tester. Donc, il y a un ELISA spécifique qui a été développé pour les typer en HPA1 pour voir si elles étaient un bébé. Dans la deuxième phase, c'est de pouvoir collecter des données sur l'histoire médicale de la patiente. Dans la troisième phase, de voir si, par l'évolution de la grossesse, elle a développé des anticorps, et là, par la technique PacElix. Et bien sûr, la quatrième phase est le recrutement des cas. Alors, je présente juste des résultats préliminaires qui ont été montrés à l'ESPGI en 2021. Vous voyez qu'il y a 153 227 patientes qui ont été screenées et 2,4% des patientes sont HPA1 bébé. Et dans ces 2,4%, il y a 9,3% des patientes qui ont un anticorps anti-1A et une seule patiente qui a une association 1A et 5B. Et pour finir ma présentation, le sujet vraiment qui est au cœur de notre travail dans le laboratoire, et j'en profite pour remercier toute l'équipe du CNRHP et notamment celle du secteur d'immunoplaquettes, c'est d'aller relire le papier de notre ami Nouria Noguès sur l'avancée du génotypage plaquettaire fœtal non invasif d'HPA1A, où elle brosse toutes les techniques qui ont été développées jusqu'à présent. Et puis, bien sûr, comme vous le savez, dans notre laboratoire où nous avons mis au point quatre systèmes différents et nous le faisons actuellement en routine. Et je vous remercie pour votre attention.